Je lance l'enregistrement et Nicolas, c'est à toi.
Ben merci déjà de cette invitation et merci à vous d'être là pour écouter ma présentation. Alors, c'est une présentation qui s'appuie sur un certain nombre de travaux qui sont publiés. Et comme on l'a dit, je pourrais éventuellement, si besoin, mettre aussi cette présentation à disposition des auditeurs. On verra comment après. C'est aussi un certain nombre de travaux que j'ai réalisés. Beaucoup avec Karine Roudotte, avec qui on travaille depuis quelques années sur ces questions de communauté. Alors Karine Roudotte, Karine est plutôt sociologue, moi je suis plutôt économiste, mais voilà, qu'est-ce que c'est une communauté, de quoi on parle quand on parle de communauté du logiciel libre ou de communauté de Wikipédia, et puis un terme qui est de plus en plus utilisé pour désigner ces activités, ces projets, enfin il y a plein de mots, hein, qui est le terme des communs. Donc l'idée de la présentation, c'est de vous faire dans ce groupe qui connaît assez bien le sujet quand même, de vous donner un peu une vision et une analyse de ce que nous on comprend par commun, et essayer aussi de vous montrer en quoi ça nous permet. Et j'espère que ça vous permet aussi de mieux discuter un certain nombre de choses, notamment c'est quoi cette communauté, c'est quoi l'organisation de ces groupes, qu'est-ce qu'ils produisent aussi pour la société et comment on peut discuter cette production. Et puis aussi, alors, puisque moi, ça m'intéresse un peu leur modèle économique. Alors, un modèle économique pour un économiste, c'est pas forcément ce qu'on vend. Et ce qu'on achète, le modèle économique, c'est comment ça fonctionne, comment on génère les ressources humaines, d'activités, financières éventuellement, qui permettent au projet de fonctionner et de développer les ressources humaines, financières ou de connaissances, par exemple, qu'il fournit à ses utilisateurs. Donc on n'est pas vraiment sur des questions de clients ici, hein, bien sûr, mais ça peut arriver, on est plutôt sur les questions d'utilisateurs. Donc ma présentation va se dérouler en quatre grandes parties. Peut-être un petit rappel, un petit clin d'œil aussi à des collègues qui sont là ou pas, mais qui ont aussi beaucoup discuté des communs, notamment dans le numéro spécial qu'on avait fait avec Mélanie dans Terminal, il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Donc voilà, donc au-delà de la discussion, comment on peut réfléchir à ce que ça soulève, ces différentes présentations des communs, en termes de définition. Ensuite, j'aborderai plutôt notre définition à Karine et moi des communs, d'expliquer comment on arrive à cette définition, à cette proposition. Et ce qui nous permettra de rediscuter un peu la spécificité du numérique dans ces nouveaux communs et notamment les nouveaux communs de connaissances et de finir sur des questions de communauté. Alors après, j'ai prévu quelques petits transparents pour approfondir aussi sur comment cette grille nous a permis de ou m'a permis de lire un peu les communs, notamment par exemple la publication scientifique, qui est pour nous un commun de connaissances, ou Wikipédia, comment ça fonctionne et en quoi Wikipédia est différent finalement d'une autre plateforme plus privée d'échange ou de publication de connaissances. Et en quoi c'est un peu pareil aussi. Voilà, donc ça, on pourra en discuter après si ça vous intéresse dans la discussion, s'il nous reste du temps, si je suis pas trop long. Mais on va commencer par l'histoire des communs. Alors, donc, très très bon, merci Mélanie, hein, pour la référence. Vous irez lire les articles. Mais on a au départ une discussion générale des communs, et quand on est même dans l'actualité politique, hein, on en discutait avant de commencer. Ça fait partie plus ou moins des discussions, des interrogations dans les campagnes. C'est est-ce qu'il faut développer les communs? C'est quoi un commun dans la discussion publique et de l'action publique? Mais en gros, il y a cette idée que, eh bien, on arrive dans la limite du tout marché ou du tout État, hein. Donc, toujours cette discussion qui est assez importante pour les économistes, qui définit aussi des types de biens, le bien public et le bien privé, et on est plutôt dans des choses un peu différentes, et que eh bien, on a ces nouveaux communs ou cette activité autour de collectif, hein, disons le mot, qui ensemble essayent de produire des choses ou de gérer des choses, hein, dont ils ont besoin, qui les intéressent eux. Et ça fait référence évidemment à Ostrom et aussi à une histoire un peu plus ancienne. Eh bien, ces collectifs-là arrivent à maintenir des ressources, et notamment des ressources rares ou des ressources qui ont besoin, qui peuvent, si elles sont surexploitées, disparaître, et le maintiennent avec un fonctionnement qui semble plus satisfaisant, en tout cas, que si on les confiait à une entreprise, le marché, ou que si c'était géré par l'État. Donc, quand on parle de commun en opposition à l'État ou au marché, c'est pas forcément que le commun où on serait sur un mode politique qui serait différent, hein. C'est surtout aussi beaucoup sur des activités de groupe qui gèrent des ressources de manière plus efficace que une gestion publique ou une gestion privée des mêmes ressources. Et ça, bon, c'est quelque chose qui est assez important pour ces groupes-là et pour toute l'histoire des communs et notamment des communs numériques. Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Je vous renvoie aux articles suscités. Il y a aussi quand même des réflexions sur le commun en termes de organisation politique ou organisation des groupes, hein, au-delà, voilà, est-ce que c'est un modèle qui permettrait, hein, au-delà du modèle centralisé de l'État ou extrêmement décentralisé du marché, de proposer à des groupes de s'organiser pour produire et produire des choses différemment. Et il y a notamment Laval là-dedans qui a beaucoup réfléchi sur ce que ça voulait dire un commun. Et en termes de, là, on est sur les communautés, justement, c'est-à-dire sur la communauté, alors la communauté nationale, mais là, on est plutôt sur une communauté plus locale, mais en quoi ce commun, les nouveaux communs, sont ou ne sont pas, en fait, des enfants des anciens communs dont on parle, donc les enclos, quand on parle d'enclosure, donc les communs, c'était au départ, hein, les prés, hein, qui étaient gérés en commun dans un. Et qui était accessible à tous, enfin à tous, dans la communauté locale, qui n'était pas une communauté choisie, nous dit Laval, hein, mais un groupe qui était là qui gérait ensemble une ressource. Et ce que nous dit Laval, c'est que les communs d'aujourd'hui ne sont pas du tout pareils, hein, c'est pas la même fonction, et c'est une communauté choisie, c'est des gens qui librement, et ça va être aussi important pour nous, notamment dans les communs numériques, librement décident de participer à une action collective, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, de production de quelque chose. Alors, production de quelque chose, ça c'est moi qui le rajoute, parce que Laval n'est pas très clair là-dessus, hein. En gros, entre ces nouveaux communs de gens qui choisissent de participer ensemble à quelque chose et les anciens communs qui sont des gens qui sont à un endroit, qui ont une ressource à gérer ensemble, mais finalement qui sont là parce que ils n'ont pas trop le choix, en fait, il n'y a pas grand-chose de commun, justement. Donc, on a vraiment une question sur, finalement, ces communs, c'est quoi si on n'arrive pas vraiment à les définir, ni, c'est pas contre l'État, c'est pas le contre-marché, ça, contre quelque chose, ça ne suffit pas à définir. Et si on, en tout cas, ce ne sont pas les anciens communs, les communs historiques qu'on avait vus dans les, dans les. Si on dit aussi que ces communs-là sont juste un dynamisme normatif, c'est-à-dire on produit des règles ensemble, on essaie de construire une organisation et des règles issues de la coopération, de faire quelque chose ensemble, eh bien, c'est non plus suffisant pour définir vraiment ce qui fait la spécificité de ce truc-là, les communs, et dans l'action collective. Parce que finalement, une association, c'est aussi des groupes de gens qui ensemble gèrent quelque chose. Une salle, ou un parti politique éventuellement, hein, qui gère, on va dire, des idées, qui peut gérer aussi des ressources du type des postes, candidatures, des députations, etc. Et le problème de ce flou hein, que je maintiens un peu dans toutes ces définitions, c'est si on parle d'une action collective locale, si on parle d'éléments de gouvernance, c'est essentiellement ce qui intéressait Ostrom pour dire que les communs numériques, on y vient doucement, sont des communs, puisqu'on a des formes de gouvernance qui sont proches de ce qu'elle avait constaté dans les communs plus classiques dont parlait Laval. Le fait de juste dire, voilà, c'est des gens qui font des choses ensemble, qui se coordonnent et par le numérique, ça peut être aussi assez dangereux, parce qu'on a des auteurs qui publient dans des revues, alors des revues de management, hein, c'est MISQ, donc très bonnes revues, qui disent finalement que toute action collective où des individus peuvent se coordonner via une plateforme, c'est un commun. Et ils expliquent, Facebook c'est un commun, GitHub c'est un commun, Airbnb aussi, pas de problème, c'est pareil que Wikipédia. Bon, alors, déjà, il y a le problème, donc, est-ce que c'est la plateforme qui fait le commun? Est-ce que utiliser une plateforme, ça suffit pour définir un commun? Et puis, il y a toujours cette question de, finalement, de quoi on parle? Enfin, c'est, je vous parle de commun, je parle de gens qui font des trucs ensemble, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les actions collectives? Et c'est quoi le commun? Et là, enfin, on rejoint un peu la critique de Wiber par rapport à Laval, mais aussi par rapport à ces autres auteurs comme Indel, c'est que, quand on parle de commun, et quand on parle de groupe, on parle, théoriquement, en tout cas, c'est ce que disait Ostrom, de gens qui font des choses, mais quelles choses? Quelle activité est au cœur de ce groupe et de cet engagement volontaire de participer aux activités? Et, comme le dit, on va le voir aussi Weber, c'est à partir du moment où on définit ces activités, hein, qu'on qualifie les choses dont on parle, on va pouvoir regarder aussi comment les individus discutent la co-obligation et la formation de ce collectif. Alors, c'est un premier courant de pensée, donc vous voyez, hein, c'est cette idée de commun sur un collectif, des gens qui s'autorégulent et tout ça, mais on a ce problème de définition, ils s'autorégulent pour faire quoi? Alors, d'un autre côté, on a eu une vision qui était plus anglo-saxonne, enfin, historiquement plus anglo-saxonne, aussi historiquement plus issue du logiciel libre, donc avec questions très fortes, depuis le début de droit de propriété intellectuelle, de réflexion sur le logiciel qu'il possède, comment il est diffusé, et donc avec beaucoup de juristes qui ont beaucoup de travaillé là-dessus, et donc là qui parle de la ressource, qui parle vraiment de, pour le coup, vraiment de ce qu'on produit ou ce que ce commun produit, et qui définissent une ressource et disent voilà, en fait, un commun, c'est des ressources qui peuvent être utilisées par des individus indépendamment des relations personnelles, d'autorisation, de droit d'accès octroyé par les autres. Donc finalement, le commun, c'est pour ces gens-là, c'est des choses dont on peut librement disposer sans devoir forcément demander à l'auteur initial ou, puisque là on parle de ressources intellectuelles essentiellement, l'autorisation d'y accéder. Alors, pour un économiste, ça, c'est un peu gênant, que ça, c'est la définition d'un bien public, finalement. Enfin, en tout cas, c'est une partie de la définition d'un bien public. Un bien public, je rappelle, c'est pour un économiste, c'est un bien qui n'est non exclusif, donc ça, c'est la définition de Lexi, on ne peut pas empêcher les gens de les utiliser, et non rival, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un l'utilise fait que ne gêne pas, en fait, l'utilisation de la ressource par d'autres personnes. C'est cette tradition-là, finalement, dit un commun, c'est un bien public, en fait, qui est gouverné par un collectif. Donc, on revient sur cette discussion entre l'État, le marché. Un commun, ça serait, l'économiste dirait, normalement, un bien public, c'est produit par l'État. On pourra revenir de pourquoi ce normalement. Et là, voilà, donc ce serait l'origine, ce serait des biens publics qui seraient gouvernés par un collectif. D'accord, mais l'économiste tout de suite est un peu gêné, dira, d'accord, mais pourquoi ce collectif met à disposition ce bien public. Non, théoriquement, quand on a comme ça un bien public, il y a un problème d'incitation à le produire et il y a qui est résolu parfois par justement cette privatisation du bien, c'est le droit de propriété intellectuelle qui dit ben, on vous autorise à empêcher les gens d'y en jouir ou en tout cas à réguler l'accès pour vous donner une incitation à le produire. Donc le problème, c'est pas tellement pourquoi ces gens-là donnent accès, mais comment, pourquoi il y a ce nouveau mode de production. Voilà. Donc, qui est fondé sur des. Donc, production par les pairs fondée sur les communs étant le bien public pour moi. Donc, on a une description. Hein, donc, c'est une organisation décentralisée, collaborative, alors non propriétaire, dira Benclay, c'est-à-dire des gens qui, ensemble, coopèrent sans avoir de relations hiérarchiques. Bien établi en tout cas, sans échange marchand, hein, donc c'est pas une entreprise, c'est pas une organisation hiérarchique a priori en tout cas, et qui produisent une ressource. Donc là on s'approche de la question, on voit bien qu'on est en train de converger entre bah, la première partie et la seconde. Il y a cette idée de bah, finalement un commun. C'est quelque chose où des gens produisent une ressource qui est ensuite disponible de manière assez libérale pour être utilisée sans vraiment demander le droit en fait de l'utiliser. Mais alors finalement, ok, donc ils produisent une ressource, mais pourquoi ces gens-là ont cette volonté de produire la ressource? Alors on peut dire parce que ici. Ils s'intéressent au bien commun, ils pensent que c'est important de le faire, etc. Mais peut-être on peut aller un petit peu plus loin pour essayer de bien comprendre de quelles ressources il s'agit et comment ces gens le produisent. Donc finalement, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que cette définition qui est un peu facile finalement? On aurait des communs classiques qui seraient physiques, donc situés. Où on aurait un système de fermeture et de régulation hein, de la consommation de ces communs classiques et qui permettent une fois de plus la préservation. Donc ça, c'est les vieux communs, c'est ceux que Ostrom a étudiés. Et puis, on aurait quelque chose de beaucoup plus ouvert, numérique, dynamique, où on aurait voilà des gens qui sont. Alors une description. Hein, pour l'instant, on a une description, une dynamique de collaboration. Des acteurs qui travaillent de manière décentralisée sur des modules, donc voilà, on a des petites équipes. Et surtout, ce que dit Benkler, c'est que avec un système d'entrée et de sortie libre, c'est-à-dire qu'on vient, on produit, on s'en va sur une production qui n'est pas rivale. Une fois de plus, ça semble assez différent. Des communs, donc on peut avoir deux communs, hein, mais alors pourquoi finalement on appelle des communs? Pourquoi on a Ostrom pointé quand même que on a un mode d'organisation qui est assez proche de ce qu'elle a trouvé dans les communs classiques, c'est-à-dire une hiérarchie, je vais y revenir, des règles, des droits hein, qui fondent l'accès à enfin, ces règles qui fondent des droits pour les utilisateurs de faire des choses, de contrôler les autres. Bref, on a un truc qui serait dynamique, ouvert, mais qui produirait quelque chose qui est accessible à tous, mais qui serait différent d'un commun classique malgré tout, parce que on n'aurait pas ce problème de rivalité, notamment. En fait, en gros, c'est ça, hein, le problème. C'est-à-dire que on n'aurait pas ce fait qu'il y a une ressource rivale à gérer et que si elle est mal gérée, eh bien le commun disparaît et notamment le bien public qui produit. Donc voilà, c'est un peu ce conundrum, c'est un peu cet oxymore qu'on avait envie d'étudier avec Karine, de dire bah, est-ce que tout est commun? C'est-à-dire dès que c'est ouvert, qu'il y a des gens qui s'organisent. Et qui font des choses ensemble, c'est un commun, c'est un peu d'un point de vue analytique et d'un point de vue aussi sérieux des définitions et aussi utilisabilité de l'analyse, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'on a quelque chose de réellement nouveau en termes d'organisation collective et d'action collective? Et en quoi, à ce moment-là, c'est nouveau par rapport au commun physique? Et pourquoi, malgré tout, on retrouve des similarités? Voilà, un peu toutes ces questions-là qu'on avait au départ autour des communs. Et alors, je vous rappelle un petit peu ce que c'est un commun par rapport à de toutes ces discussions, mais aussi un peu les recherches qui ont été faites, notamment autour de Benjamin Coria sur les nouveaux communs, et ce sur quoi les gens sont d'accord d'une certaine manière, même s'ils sont pas forcément d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là. Donc, des biens communs ou communs sont des ressources qui sont gérées collectivement. Alors, par une communauté, je dirais un groupe pour l'instant, selon une forme de gouvernance définie par elle-même. D'accord? Donc, il y a des personnes, je ne sais pas si vous voyez bien si vous voyez ma flèche, mais aussi, ça a l'air de marcher. Qui créent des règles pour produire et préserver des ressources. Alors, est-ce que ça va dans ce sens-là, ou est-ce qu'il y a des ressources et des personnes qui utilisent ou ces ressources et qui petit à petit créent des règles pour les préserver, hein? Ça, c'est plutôt une présentation d'un commun qui est stable, qui fonctionne. Mais en tout cas, un commun, c'est un collectif, donc plus d'une personne, qui ont des règles pour que la ressource qui les intéresse, hein, on va falloir la définir à un moment, eh bien, soit pérenne, hein, préservée au sens où qu'elle existe aujourd'hui et dans le futur. Et la deuxième chose, hein, qui est aussi une différence, enfin une définition importante des communs, c'est que ces règles, hein, eh bien, elles donnent notamment des droits à des utilisateurs. Ça, c'est sur un commun classique, on va dire les communs ostromiens classiques, hein, c'est qu'il y a une différence forte entre ce qu'elle appelle un utilisateur du commun et les consommateurs, qui sont tous les autres. Donc un utilisateur, c'est quelqu'un qui a accès au commun, à la ressource, qui peut jouir de son existence. Vous vous promenez en forêt, c'est des exemples typiques, vous voyez des poissons dans la mer. Eh bien, vous êtes un utilisateur du commun. Le consommateur du commun, c'est des gens qui ont le droit de faire des actions qui le transforment, c'est-à-dire typiquement prélever la ressource. Ce qui peut être bien pour maintenir le commun, il faut couper du bois pour que la forêt se régénère, et on peut prélever du poisson pour pas qu'il y ait une surpopulation de poissons, s'il n'y a plus de prédateurs, enfin, etc. Mais il y a bien une différence entre un utilisateur, hein, c'est pour ça que j'ai mis un trait noir là, qui finalement voit cette ressource, sait qu'elle existe et éventuellement profiter de son existence, et les consommateurs de ce commun qui, eux, vont, hein, produire, mais aussi préserver, produire, gérer, prélever éventuellement, bref, avoir des actions sur ce bien qui le transforme. Et justement, la question du commun, c'est que eh bien, ces actions-là, si elles ne sont pas gérées, vont le détruire. Enfin, c'est le problème de la rivalité, c'est-à-dire que s'il y a suraction, hein, trop de prélèvements par exemple, eh bien, on va avoir une destruction de la ressource et donc une disparition du commun en général, enfin, en tout cas du bien public. Et donc, vous avez des règles qui permettent de gérer les actions, qui permettent éventuellement de réguler les consommateurs, en les exclure s'ils ne respectent pas les règles. Et puis, vous avez aussi des règles ou des outils qui permettent de développer des capacités d'aliénation. Aliénation au sens où on exclut, où on peut gérer l'exclusion de cette ressource, que ce soit la jouissance ou éventuellement aussi la transformation. Mais les capacités d'aliénation, hein, c'est vraiment la capacité de pouvoir reprendre le commun et d'empêcher les autres d'accéder à la jouissance. Et toutes ces règles-là, c'est une règle hiérarchique, hein, vous voyez, eh bien, ça permet finalement d'organiser le commun. Alors, elles sont définies collectivement, hein, je le rappelle, c'est ça qui est important, mais il y a quand même une hiérarchie et qui permet cette régulation. Voilà. Et donc, cette hiérarchie, elle donne des droits, hein, c'est une hiérarchie qui est basée sur des droits. Et ces droits-là, ce que dit Ostrom aussi, c'est qu'ils sont évidemment basés sur la loi, hein, il ne s'agit pas d'exclure la régulation de l'État ou de la société, mais là, c'est le sens l'État qui fait les lois, qui organise la société, pas l'État qui gère hein, une ressource. La coutume, alors ça, c'est notamment dans des organisations, mais des coutumes, ça peut être aussi des règles professionnelles, ça peut être des règles de fonctionnement aussi, qui sont des règles qui sont fixées par le groupe. Et puis la régulation interne, donc les règles aussi que le groupe va petit à petit construire dans son exploitation du commun. Et ce que dit aussi Ostrom, c'est que les caractéristiques, ce qu'il appelle physico-techniques, bah, le type de commun, mais aussi les outils qu'on a pour le gérer, hein, si on est dans une zone de montagne isolée, c'est plus facile d'empêcher les gens d'arriver, par exemple. Mais si on est sur le numérique, eh bien, on a aussi des outils numériques. Et tout ça va construire la capacité des personnes à organiser ces règles et à gérer le projet. Bref, est-ce qu'on peut, on retrouve hein, ces mêmes questions de personnes, de règles et de ressources? Qui sont les gens qui sont intéressés par les ressources et qu'est-ce qu'ils font sur ces ressources? À quelles ressources ils accèdent hein? Je vous rappelle le premier transparent, il faut qu'on définisse un peu mieux de quoi on parle. Hein. De quoi on parle? Et je vois qu'on va parler. Et on va parler d'incitation. Donc, pour le coup, dans cette démarche, on est vraiment très proche de ce que proposait Ostrom. C'était ça un peu notre départ d'un point de vue épistémique, c'était de dire, attendez, bon, on va essayer de regarder comment elle a fait, puisque Ostrom, c'est quelqu'un qui a construit sa théorie hein, en se basant sur beaucoup d'observations de terrain. Et donc, la question que moi j'avais envie de travailler et enfin, avec Karine, c'était de dire, bon, voilà, quel type de structure on a et quel type de bien on a, hein? Qu'est-ce que font les gens concrètement? De quoi ils parlent? Quelles sont leurs actions? Sur quels éléments? Et est-ce que ces actions peuvent nous permettre de comprendre bah finalement, qu'est-ce qui est géré? Quelle est la ressource qui est réellement gérée? Comment cette gestion est organisée? Et finalement, quelle est la structure du commun? Hein, donc, et notamment, si on veut se rapprocher d'un commun classique, est-ce qu'il y a une ressource qui est rare, doit être régulée? Et comment cette ressource est régulée? C'est intéressant parce que c'est aussi une des choses qui a été le plus étudiée finalement dans la littérature sur les communs et notamment sur les projets en ligne, donc Wikipédia, mais aussi le logiciel libre. C'est finalement pourquoi les gens participent à ce projet, pourquoi les gens contribuent à Wikipédia, pourquoi les gens proposent du logiciel libre. Hein, on vous rappelle, hein, il y avait une description qui était, ben voilà, les gens collectivement produisent une ressource, mais pourquoi ils le font? Est-ce qu'on peut facilement, finalement, comprendre les incitations, hein, dit Jean-Bernard, sur la production? C'est assez simple, ce qui est aussi assez paradoxal, c'est que c'est finalement assez simple de comprendre pourquoi des individus, des acteurs, alors que ce soit des acteurs ou ce qu'on va appeler des agents, alors au départ beaucoup des individus, mais aussi de plus en plus, notamment dans le logiciel libre, des entreprises, eh bien, produisent de la connaissance, que ce soit du logiciel, de l'article dans Wikipédia ou de l'article scientifique, hein, ce qu'on essaie de faire. Hein. Quelles sont finalement nos incitations à le faire? Alors, il y a des incitations qui sont des incitations intellectuelles. Hein, c'est un défi intellectuel, et ça intéresse des gens. Mais le cœur aussi des incitations de beaucoup d'agents, c'est aussi cette idée que, eh bien, on souhaite orienter la production hein, la visibilité de ce qu'on fait et orienter la production vers ce qui nous intéresse. Il y a énormément de travaux qui ont été faits sur la contribution à Wikipédia et les guerres d'édition. Eh bien, c'est un peu ça. C'est voilà, on veut que sur Wikipédia, eh bien, ça soit notre vision de la connaissance qui prévaille, ou en tout cas qu'elle soit présente. Et donc, dans le logiciel libre aussi, c'est une énorme incitation pour beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que si on veut que le logiciel soit compatible avec ses besoins, avec ses autres logiciels, par exemple, ou avec ses besoins en tant qu'utilisateur, on doit contribuer et pousser finalement la connaissance vers ses besoins, ou en tout cas augmenter la connaissance au sens stock de connaissances qui sont produites, vers ce dont on a besoin. Et ça, eh bien, il faut contribuer pour le faire. Ensuite, il y a d'autres gains, alors ça on les a étudiés un petit peu aussi, qui incitent à rester, à continuer à progresser. C'est des effets de statut, de reconnaissance par les pairs. On produit de la connaissance, on est reconnu, on a des discussions qui sont intéressantes, on a des propositions sur sa connaissance, et tout ça incite à continuer à échanger et donc à continuer à produire. Alors ça aussi, c'est un petit clin d'œil à la littérature économiste néoclassique qui dit oui, mais de toute façon, les gens, ils font ça parce que ils le valorisent sur le marché du travail. C'est pas tout à fait vrai. En fait, les gens contribuent et se rendent compte que c'est valorisable sur le marché du travail. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément anticipé. Mais c'est vrai qu'il y a des positions acquises dans des projets de logiciels libres, notamment, mais aussi dans Wikipédia, qui permettent d'accéder à des postes intéressants ou à des éléments dans le marché du travail. Et ça renforce le lien vers le projet, plus encore que la connaissance, et la volonté de continuer à participer sur le projet. Et là, on retrouve, alors c'est assez intéressant, on retrouve des fondamentaux en psychologie sociale, hein, notamment de ce qui fait marcher les individus, donc des questions d'autonomie, de compétences, de besoins en relation à autrui. Donc c'est vraiment des éléments de base de l'activité humaine, finalement, qui font que ces plateformes, bon, là on est sur le numérique, eh bien proposent des défis, des outils d'amélioration de la compétence, des outils de reconnaissance qui sont valorisés par les utilisateurs. Et en gros, on n'a pas besoin d'introduire des choses très compliquées en termes de calcul d'agents, ni non plus de rémunération d'ailleurs, d'incitation ou de gaming, pour que certaines plateformes, en tout cas, soient intéressantes pour les gens et qu'ils aient envie de contribuer. Cette ressource rare, ce droit-là, hein, puisqu'on a dit hein, que les communs, ils régulent les actions, et ce droit de modifier la base de connaissances, hein, eh bien, elle est rare, effectivement. C'est une ressource qui est rivale. Et quand on parlait des guerres d'édition, on voit bien que accéder à cette ressource, accéder à l'article Wikipédia sur la Seconde Guerre mondiale, avoir le droit de dire entre guillemets la vérité sur ce qui se passe en Ukraine, eh bien, c'est des enjeux qui sont importants pour des acteurs. Et donc, pour atteindre ces enjeux-là, pour pouvoir le faire, il faut contribuer. Et on va devoir aussi réguler cette contribution parce que justement, on veut, et là on retrouve sur ce que dit Ostrom, eh bien ce stock de connaissances-là, eh bien il faut qu'il soit maintenu, il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'aussi il soit de qualité. C'est le problème de Wikipédia, c'est le problème du logiciel libre, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas n'importe quoi. En tout cas, ça respecte un certain nombre de règles qui sont les règles qui sont fixées par le projet. Et c'est aussi rare parce que, alors ça renvoie à quelque chose de plus général dans le numérique, c'est que le temps de cerveau disponible est aussi limité. Le temps d'expert, d'évaluation est limité. Donc on a besoin aussi de réguler eh bien, l'analyse, l'évaluation hein, de ces contributions. On sait qu'il n'y aura pas d'échanges pour tout le monde et sur tous les sujets. Et donc, eh bien, il va falloir que ces contributions-là soient régulées. Les projets hein, tels qu'on les décrit, les projets, ils ont effectivement une organisation, c'est-à-dire qu'ils construisent une structure et ils construisent une organisation pour réguler cette production de connaissances, ces droits de modifier ces éléments-là. Hein? Donc souvent, ils sont organisés en termes de sous-projets, donc des articles, des modules, et notamment dans le logiciel libre, un logiciel libre pour que ça devienne finalement un commun, que ça dépasse le fait que une personne ou deux personnes produisent un logiciel et le mettent à disposition, on a donc il y a vraiment une organisation collective de gestion de cette ressource et de l'évolution de cette ressource, on a besoin d'organiser la structure du logiciel en structure modulaire. Donc vraiment, c'est des problèmes techniques de logiciel, des problèmes qui se posent aussi à Wikipédia, pour qu'on puisse organiser la coproduction. C'est aussi une régulation qui, dans le numérique, hein, je suis toujours dans la description, est très outillée, au sens où on a énormément d'outils numériques, la plateforme déjà, hein, qui vous contraint en termes d'organisation, en termes d'endroits où vous pouvez faire, contribuer, mais aussi des outils automatiques, ce qu'on appelle des bots, qui vont évaluer votre proposition automatiquement et selon un certain nombre de règles fixées par le collectif, vont laisser passer ou pas cette contribution, une espèce de premier filtre. Et ces règles, elles sont discutées et négociées par toujours des sous-groupes de tous les contributeurs. C'est quelque chose, une constante qu'on a trouvée dans tous les projets qu'on a étudiés, dans toutes les littératures moi, que j'ai lues sur ces projets. À partir du moment où il y a un groupe ou un projet qui prend de l'ampleur, il y a toujours un sous-groupe qui discute les règles et un groupe beaucoup plus important de simples contributeurs et puis les utilisateurs. Et donc on a bien dans ces communs numériques, ces communs de connaissances, on a une double, comme dans les autres communs, finalement, on a un double type de bien. On a ce bien public qui est le stock de connaissances auquel alors, tout le monde peut accéder. Disons que il y a un accès qui peut être compliqué, qui doit être financé. On pourra en discuter après. On peut penser par exemple aux appels aux dons de la Wikimedia Foundation qui sert à financer ça, hein. Mais ce bien public, en fait, il est construit, hein, par rapport à une organisation qui va le faire évoluer, qui va gérer les actions qu'on met sur ce bien public, c'est-à-dire les modifications, et c'est ces modifications qui sont au cœur de la gestion et de la régulation de la ressource, de l'organisation des règles, mais aussi de l'intérêt des contributeurs à participer. Effectivement, il peut y avoir, là il y a des critiques qui disent, bon, il peut y avoir des raisons morales, mais c'est pas un problème utilitaire. Enfin, je pense pas que. Alors, je me suis mal exprimé si c'est un problème utilitariste. Je dis juste que on n'a pas besoin d'incitation extérieure ou si on prend des Sierra Ryan de motivation extrinsèque pour expliquer la contribution à un commun. Ce que je veux juste dire, c'est que les motivations intrinsèques qui sont propres à l'individu suffisent à expliquer que certaines personnes aient envie de contribuer à ce projet-là. Ça, c'est quelque chose qui est assez, pour un économiste, par rapport à la production de biens publics et tout ce qu'on appelle la question du passager clandestin, qui est quelque chose qui est assez remarquable, en fait. Voilà, c'est juste ça que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin de dire aux gens, bah, on va vous payer pour contribuer ou faites-le parce que c'est bien. C'est-à-dire que les gens individuellement, les gens, certaines personnes individuellement et suffisamment pour que certains projets fonctionnent, participent à ce projet parce qu'ils y trouvent un intérêt propre. Alors sur la question sur les demandes politiques publiques, on y reviendra peut-être, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Donc on a, enfin, ce que ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve dans ces structures-là, et ça renvoie aux discussions et aux différentes manières de présenter les communs et les discussions sur les communs, hein, on retrouve dans un commun numérique une ressource gérée par un groupe et une ressource qui est rivale, et qui sépare aussi les individus entre les consommateurs et les utilisateurs. Alors attention, hein, quand moi je parle de consommateur, j'utilise pas forcément le même et utilisateur, j'utilise pas forcément les mêmes termes que certains de ces groupes-là. Si vous allez sur Wikipédia, quand la Wikimedia Foundation parle de ses utilisateurs, elle parle des consommateurs, des gens qui contribuent. Au service de qui elle est finalement, quand elle développe des outils, c'est pour les contributeurs. Donc les consommateurs, c'est bien ceux qui agissent sur le flux, qui pour eux a une valeur, c'est important pour eux de pouvoir le faire. C'est l'action, c'est ce fait de contribuer, hein, cette action qui donne finalement de la valeur aux individus. C'est parce qu'ils agissent, parce qu'ils contribuent, parce qu'ils font quelque chose, qu'ils modifient ce commun, qu'ils en retirent de la valeur. Alors que ce soit une valeur morale, politique, l'impression de faire quelque chose, si je veux être un peu cynique, ça peut être aussi une valeur eh bien d'efficacité, comme j'ai expliqué, de réussite d'un défi, et éventuellement aussi de reconnaissance par les pairs. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement Laval avait vu juste, sauf qu'il n'avait pas forcément définit bien ce qu'il entendait par commun ou par action. C'est pas la propriété dans les communs qui confère ces droits d'accès et de gouvernance sur un projet. C'est bien l'activité, c'est-à-dire le fait de faire qui vous donne des droits pour faire encore ou pour éventuellement monter dans cette hiérarchie de gestion du projet. Vous n'êtes pas obligé, hein, de le faire, mais si vous voulez avoir des droits sur de discuter l'évolution du projet, de participer à la régulation des contributions, et bien tous ces droits-là, et bien c'est par l'action de contribuer, de consommer, auquel vous allez accéder. Puis, et il faut pas oublier ça, c'est que cette activité, je reviendrai aussi dans la conclusion, elle génère ce bien public, hein, ce stock de connaissances qui est accessible aux utilisateurs. Alors, une fois de plus ou moins facilement, ça peut demander ça peut être compliqué d'un point de vue financier, mais c'est bien ce stock, hein, qui est accessible aux utilisateurs. Et c'est aussi ce stock qui est souvent discuté, notamment par les juristes, en termes de protection ce qu'on appelle le commun, en fait, de ce stock de connaissances. Est-ce que quelqu'un peut se l'approprier? Est-ce que quelqu'un peut le refermer? Est-ce que c'est un problème que ce stock puisse être refermé? Peut-être, mais là, on est vraiment sur des questions de bien public et d'accès au bien public qui est produit par ce groupe de consommateurs qui, une fois de plus, n'est pas forcément très intéressé par les besoins de ces utilisateurs-là. Hein, paradoxalement, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que les contributeurs à Wikipédia, ce qui les intéresse, une fois de plus, c'est contribuer sur ce qui les intéresse, comme ça les intéresse. Que ça soit important pour les utilisateurs, c'est pas leur souci principal, pour répondre aussi aux valeurs morales et politiques. Il peut y avoir des acteurs et des consommateurs qui sont guidés par ces valeurs-là, ou qu'en tout cas, ce qui les intéresse rejoint des enjeux moraux et politiques. Ils peuvent utiliser aussi des arguments moraux et politiques pour défendre leurs activités. Mais les utilisateurs, le fait qu'on contribue parce que c'est bien pour les utilisateurs, en fait, en tout cas, moi, j'ai aucun exemple de projet de commun numérique qui fonctionne comme ça. Les contributeurs sont toujours des gens qui sont intéressés à contribuer pour leurs besoins, pour leurs intérêts, etc. Après, un commun qui réussit, j'ai envie de dire, c'est sans doute un commun où les intérêts des consommateurs rejoignent des intérêts plus vastes des utilisateurs. Si Wikipédia fonctionne, c'est aussi parce que toutes ces activités de consommateurs produisent une telle quantité de connaissances que nous, en tant qu'utilisateurs, on y retrouve souvent notre compte. De la même manière pour Linux, etc. On retrouve, si on s'intéresse à ces activités-là de contribution, de production de connaissances, eh bien, on retrouve finalement une structure qui est exactement la même qu'une structure de commun classique, une structure au terme de régulation par les droits et par les droits d'accès. Et on retrouve hein, cette idée de d'un accès à la connaissance qu'on a appelée une connaissance stock, au stock de connaissances qui est permis à l'utilisateur, mais une organisation qui s'intéresse principalement à la gestion de la connaissance, des actions sur le flux de connaissances et de la régulation de ce flux de connaissances. Et donc avec des contributeurs. Ensuite, on aura des modérateurs ou des responsables d'articles, alors des package managers, ça c'est pour le logiciel, des administrateurs, c'est plutôt pour Wikipédia, des éditeurs dans les revues scientifiques. Là, on aura des évaluateurs dans les revues scientifiques. Là, on aura nous quoi, des chercheurs qui vont proposer des articles. Et puis on a des propriétaires qui sont les propriétaires. Alors là, pour le coup, souvent au départ de la plateforme, éventuellement de la marque. Donc, des éléments de propriété intellectuelle, hein, des éléments d'actifs qui eux vont gérer aussi malgré tout cet accès et qui ont un rôle important, un pouvoir important sur l'existence. Et aussi, une fois de plus, c'est construit grâce aux droits de propriété intellectuelle, hein, notamment l'accès à la connaissance stock, mais aussi à des règles d'usage qui sont, et ça c'est quand même une particularité, extrêmement encastrées dans la technique, dans les outils numériques qui permettent de développer la connaissance, étant elle-même un outil numérique, mais aussi de réguler les droits de chacun. Donc on a vraiment une organisation qui est proche d'une organisation des communs. On retrouve cette organisation-là, mais ce que j'ai envie de dire, c'est sur l'activité, elle est sur, voilà, on sait sur quoi elle est sur la contribution, sur ces droits de modifier le bien public. Reprendre sur, finalement, du coup, oui, j'ai envie de dire oui, voilà, oui, on a un commun. Enfin, finalement, on a raison, je crois, de parler de commun numérique et on a raison de relier ces communs-là à l'histoire des communs physiques, pas seulement en termes de structure institutionnelle et de gouvernance, hein, une fois de plus, ce qui intéressait vraiment Ostrom, mais aussi parce que, finalement, c'est une gouvernance pour gouverner des activités et des ressources qui sont comparables, même si elles sont différentes, à la gouvernance à la gestion de ressources plus physiques, avec cette idée de bien public qui est maintenue parce que la gestion du bien rare, de la ressource rare, l'action sur le bien public, eh bien, elle est gérée par un collectif. Bon, évidemment, il y a aussi des différences. Et là, on va peut-être, je pense, pouvoir mieux les poser à partir du moment où on a dit ce qui était pareil. Déjà, on a une différence forte par rapport à un commun physique classique, sans doute. C'est beaucoup plus facile, notamment dans les projets de connaissances, d'avoir une construction incrémentale. À partir du moment où vous avez un article dans Wikipédia, c'est mieux que zéro. À partir du moment où on en avait deux, on ne va pas dire que c'est deux fois mieux, mais c'est encore mieux, etc. Chaque article apporte et le projet de commun, eh bien, le stock, il a une valeur à partir du premier article. Ce n'est pas forcément vrai dans d'autres types d'actions collectives. Quand vous voulez construire un pont, tant que le pont n'est pas fini, il ne sert à rien, en fait. Et une fois qu'il est. Donc, c'est du binaire, 1 ou 0. Ça existe, ça n'existe pas. Et ça, Marwell et Oliver l'ont montré depuis très longtemps que c'est cette construction incrémentale qui permet dès le début d'avoir une valeur dans l'action, Eh bien, elle est vraiment très très importante. Cette construction modulaire aussi, elle est vraiment très importante pour faciliter l'action collective, puisque chacun va faire son petit bout. C'est pas seulement que chaque bout en soi a une valeur, c'est qu'aussi chacun peut contribuer, hein, avoir l'action sur ce qui l'intéresse. Je peux couper le bois qui m'intéresse, mais je peux aussi parler de commun et je suis pas obligé d'attendre que d'autres parlent d'autres choses pour que ce que je fais soit intéressante. Bon, je vois qu'il y a des gens qui doivent partir, je suis désolé, hein, mais voilà, une fois de plus, si vous avez besoin de représenter ça ou d'en rediscuter ou de d'avoir les transparents, je pense qu'ils seront possibles en utilisation sans modification, etc. On discutera de la licence après. L'autre, donc, et donc avec ce rôle des plateformes et des systèmes d'information qui est aussi très très important. C'est-à-dire que la plateforme et le système d'information, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour réguler l'accès, pour contraindre, pour surveiller aussi, mais pour organiser l'accès. Alors, c'est toute la littérature sur les systèmes d'information que je ne vais pas vous refaire là en 5 minutes, mais en gros, voilà, c'est-à-dire que il y a des affordances dans ces plateformes-là qui font que quand vous arrivez, eh bien, on vous dit en fait comment vous devez contribuer, où vous avez le droit de contribuer. Et ça, c'est extrêmement contraint finalement. Il y a une très forte régulation par l'outil sur la contribution. Cette régulation, elle est a priori, hein, sur justement la technicité de ce système, sur les connaissances aussi qu'il faut avoir, sur ses capacités d'action de production de connaissances. Hein. Il y a eu plein d'articles qui ont été faits aussi sur qui contribue à Wikipédia, des gens qui ont plus que Bac plus 3. Pas forcément parce que c'est les seuls qui auraient des connaissances pertinentes à apporter, mais c'est des gens qui se sentent légitimes pour contribuer à Wikipédia. Et cette légitimité, elle est très importante pour franchir le cap et l'investissement. Mais surtout, et ça c'est très très spécifique, au numérique, et ça j'insiste, c'est vraiment quelque chose de très différent, c'est qu'on a une régulation a posteriori. Dans nos communs classiques, on vous donne le droit de prélèvement sur le prélèvement de la ressource. Vous avez le droit de cette action-là. Si vous n'avez pas ce droit d'action, vous n'avez pas le droit de le faire. Dans le numérique, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que on vous dit faites-le. L'entrée est ouverte, vous avez le droit de contribuer. Donc, a priori, on vous donne l'autorisation de contribuer à cette ressource. Par contre, donc vous faites un effort a priori, mais cet effort il est régulé a posteriori. Si vous ne faites pas une contribution qui semble pertinente par la régulation, par la gouvernance, elle est exclue. Donc vous devez investir beaucoup plus sans savoir si vous aurez eh bien la possibilité d'en tirer les bénéfices. Hein. Je vous rappelle, le bénéfice, c'est votre contribution est acceptée. Vous avez impacté sur la direction de la connaissance ou vous avez eu un retour des évaluateurs. Et ça, c'est évidemment une différence énorme par rapport au commun physique, c'est que l'action peut être effacée sans conséquence. Alors que, à partir du moment où vous tuez un poisson, le poisson, il est mort. On ne peut pas faire, non, finalement, vous n'aviez pas le droit de le tuer, donc on va le remettre dans le bassin. Bon, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, hein. Donc voilà, ça c'est une grosse différence par rapport à la vie numérique. Ça veut dire aussi que c'est évident, mais il faut le redire, les communs, ce ne sont pas les seuls systèmes de gestion collective. On a des systèmes de gestion de biens club où la ressource elle est facilement exclusive, hein, pensez à Moodle, pensez à un équipement sportif. Mais voilà, la régulation, elle est différente parce que le bien est différent. Hein, là, on doit organiser le partage du bien, on doit organiser le fait qu'à partir d'un certain niveau, il y a des problèmes de surexploitation, enfin de surusage. Mais tant qu'on reste raisonnable, eh bien, il n'y a pas ce problème-là. Ce n'est pas la licence qui définit un commun. Le commun, c'est la régulation collective de la contribution pour nous, hein. C'est notre définition. J'espère que je vous ai convaincu, mais voilà. Donc, des projets, il y a plein de projets libres de logiciel où il y a quelqu'un qui, un agent qui produit le logiciel et qui le met en libre. Donc effectivement, le bien public existe, mais ce bien public, il est dépendant d'une personne. Ce qui le rend assez fragile, déjà, cette personne-là, il y a eu des exemples assez célèbres ces derniers mois sur des bibliothèques en Java, si je me souviens bien, qui ont été arrêtées ou enfin buggées par la personne qui s'en occupait, le propriétaire, hein. Donc voilà, il y a le propriétaire et l'utilisateur, mais il n'y a rien entre les deux. Ça, c'est pour moi, c'est pas un commun, parce qu'il n'y a pas cette régulation collective de la ressource et cette discussion collective sur bah, finalement où on veut que cette ressource aille et comment on l'organise et qui contribue pour diriger cette ressource. Donc pour qu'il y ait un commun, et je pense qu'on peut l'étendre au commun numérique, c'est. Et finalement, c'est pour qu'il y ait toujours une ressource rare, hein, donc quelque chose qui est des actions qui soient contrôlées parce que on peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Il faut que ça soit géré collectivement. Et cette gestion collective, elle est organisée par un système sociotechnique, c'est-à-dire qui dépend des conditions techniques de la ressource, des conditions techniques, des outils qui permettent de la gérer. Et de l'organisation sociale, et là il y a plein de systèmes d'organisation un peu différents. Alors, la conséquence de la numérisation de ces communs, ou en tout cas, quelles conséquences il y a sur le numérique, et, comme je vous le disais, il y a un déplacement du coût de la régulation sur les entrants. Ça, c'est très fort, hein, c'est-à-dire que, voilà, si je dois faire un effort pour pouvoir participer, et c'est pas un effort, c'est pas un droit que je demande ex ante. Donc ça, c'est très coûteux et on a plein de soucis là-dessus. Il y a plein de projets, notamment Wikipédia, qui a été critiqué là-dessus et qui fait essayer de faire beaucoup d'efforts. N'empêche que c'est toujours des projets qui sont très durs pour les nouveaux arrivants, où on se fait exclure de manière très fortement et très violemment. Mais d'un autre côté, cette régulation par la norme et par la règle, et cette automatisation par le système d'information aussi, permettent de se cacher, d'essayer, de rater, de réessayer. Et ça, sans être forcément jugé. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez différent d'un commun physique, hein. Si vous tuez trop de poissons, on va à un moment vous dire ça suffit. Si vous faites 250 fois la même erreur sur Wikipédia, personne ne vous dira. Sauf si vous êtes vraiment identifié, que vous le faites de manière vraiment mal intentionnée, on peut vous exclure, mais rien ne vous empêche de créer un nouvel alias et de recommencer. Donc on peut tester cette contribution. Et puis, il y a aussi des différences par rapport à d'autres types d'organisations collectives, hein. Par exemple, c'est que la position, elle est gagnée par la réputation, par l'action. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, plus que par les compétences a priori. Dans un système des communautés et ce qu'on appelle épistémique de production de connaissances, de communautés d'experts, eh bien, vous arrivez en tant qu'expert et vous êtes recruté en tant qu'expert. Donc, il y a ce filtre-là à l'entrée ex ante une fois de plus, qui est fait par le collectif ou qui gère le projet. Là, une fois de plus, c'est parce que vous contribuez que vous aurez le droit de. Alors c'est un processus de régulation qui est permanent, mais ça c'est le rôle de tous les communs, avec par contre des frontières qui sont sans doute plus incertaines et des groupes qui sont plus changeants que dans les communs classiques. C'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un peut vous dire oui, ben moi je contribue, ou oui, moi je suis un contributeur qui participe aux discussions, et probablement que vous êtes reconnu par vos pairs. À chaque instant, mais par contre, c'est quelque chose qui va évoluer. Si vous arrêtez, bah vous perdez votre statut, ou si vous êtes un extérieur, un chercheur par exemple, eh bien la vision de quel groupe fait quoi est assez difficile à faire sans une immersion assez longue et assez profonde dans le fonctionnement et dans les actions, l'étude des actions de ces contributeurs. Voilà, ce qui me permet de finir sur ces idées de commun, collectif et communauté, qui était le titre initial, et sur la notion de communauté. De quoi on parle quand on parle de communauté finalement? Est-ce qu'on peut rattacher ces notions de commun aux communautés choisies dont on a parlé? Voilà. Donc, une fois de plus, il y a les utilisateurs, hein, Et ces gens-là, c'est des simples utilisateurs qui accèdent à la ressource publique ou au bien public. Et donc, finalement, où ces gens-là, ils sont régulés, leur accès, il est régulé par la loi, mais aussi éventuellement par des actions politiques, au sens où est-ce qu'on finance l'accès à ces projets de connaissances. Là, je parle par exemple aux revues en open access, hein, l'idée de financer le fait que on puisse lire la production scientifique, eh bien, c'est utile pour les utilisateurs. Et puis après, il y a le collectif, hein, les gens, les contributeurs, donc les gens qui participent au projet, les gens qui ont une action sur le commun. Et ça, c'est la ressource que j'appellerais la ressource privée. Pourquoi privée? Bah parce qu'elle est réservée à ce groupe-là. Alors une fois de plus, c'est un groupe qui est ouvert. C'est un groupe qui est avec des frontières poreuses. Ça, c'est très différent de d'autres groupes privés. Mais ça reste un groupe qui est privé au sens où tout le monde n'y a pas accès. Il faut faire un effort, c'est coûteux et c'est aussi coûteux pour s'y maintenir. Hein? Et donc, pensez au nombre de fois où vous avez essayé de contribuer à un journal scientifique et où le groupe qui gère ce journal, les éditeurs, vous ont dit, bah non, c'est pas ça qu'on attend, ou vous n'êtes pas digne de contribuer à notre collectif. Donc vous n'êtes pas digne de participer à la direction de la connaissance qui est portée par ce projet de revue. Et puis, bah, le problème de ce collectif, c'est que finalement, plus ce collectif fonctionne, en fait, plus son projet marche, plus il va augmenter les barrières à l'entrée. Ça va être difficile de contribuer et d'avoir accès, hein, à la ressource rare, rivale, etc., qui est la contribution. Parce que, une fois de plus, bah, le collectif, les gens qui gèrent la ressource, c'est limité. Les places, elles sont limitées. Et notamment, regardez une fois de plus les journaux scientifiques, mais c'est vrai aussi pour les articles de Wikipédia, c'est vrai pour un logiciel. Eh bien, une fonction logicielle, elle peut pas être, peut pas y en avoir trop. Hein. Une fois qu'elle est produite, elle est produite. Et donc, si on veut d'autres fonctions, ça peut être compliqué d'avoir trop de fonctions. Il faut choisir. Dans une revue, eh bien, on choisit. On a un certain nombre de créneaux pour des articles. Alors c'est peut-être une ressource qui est une rareté qui est entretenue, hein, qui est un peu artificiellement entretenue. On pourra y en discuter. Mais en tout cas, la ressource des évaluateurs, elle reste rare. Et donc, eh bien, si vous voulez contribuer à Terminal, eh bien, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui que c'était il y a quelques années. J'en sais rien. Mais en tout cas, plus Terminal sera connu, plus ça sera compliqué de contribuer, c'est-à-dire d'avoir accès à un créneau de publication. Et la communauté, celle qui dit nous, celle qui dit la communauté, Wikipédia, eh bien, c'est celle qui a le pouvoir sur le système sociotechnique. C'est celle qui a des droits issus de ce système, ou c'est celle qui produit le système sociotechnique, donc au sens où le logiciel, l'utilisation du logiciel, quelquefois les bots, bref, c'est les gens qui régulent et qui contrôlent les contributions. Et ça, c'est très clair dans les discours des gens, même s'ils s'en rendent pas compte. C'est que voilà, quand on parle de communauté Wikipédia, ceux qui parlent de communauté Wikipédia, on avait fait des enquêtes là-dessus, c'est ceux qui sont vraiment sur le côté de la gestion. Donc dans mon tableau là de droit et tout ça, c'est au moins le troisième niveau, ceux qui ont des pouvoirs sur les contributeurs, sur la contribution. Donc le paradoxe, c'est que même dans les communs numériques et dans cette discussion sur les communs qui seraient des communs entre l'État et le marché, bah, le commun, c'est la communauté, c'est la hiérarchie. À partir du moment où on organise la régulation d'une ressource, qu'on fixe des règles, dans tous les communs qu'on a étudiés, eh bien, il y a des gens qui les fixent et des gens qui les subissent. Et les gens qui les fixent, c'est une sous-partie, ce que Ostrom appelle les policymakers. Donc il y a forcément une hiérarchie qui s'installe. Alors cette hiérarchie qui, une fois de plus, est contestable, c'est une hiérarchie qui est accessible, et ça c'est une grosse différence avec d'autres systèmes organisationnels, notamment les plateformes privées. Mais en moins, la commun, c'est aussi une hiérarchie. Donc voilà, donc ça je redis ce que j'ai un peu dit, hein, c'est qu'en même temps c'est une régulation organisationnelle sur le contrôle a posteriori, mais qui reste poreux. Alors, moi, j'aime bien parler de centralisme démocratique. C'est assez à la mode en ce moment avec le retour de l'URSS, pardon, de la Russie démocratique. Mais voilà, il y a un peu cette idée-là derrière, malgré tout, de dire, bah, en fait, si vous voulez participer, vous devez accepter notre projet et accepter nos règles. Et si vous montrez que vous acceptez le projet et les règles, même si vous les contestez en partie, mais si vous acceptez de rentrer dans le fonctionnement, éventuellement, on vous acceptera et on vous adoubera pour gérer le projet et les règles. Alors, et je finis là-dessus, il y avait des questions un petit peu dans le chat, j'ai vu ça sur société et commun. Donc, qui peut défendre le commun, en fait? Est-ce qu'il faut le défendre et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue politique de défendre le commun? Donc, il y a ce bien public, hein, qui est défendu par la loi, alors, si on parle de numérique, en tout cas, hein, qui est défendu par la licence, et ce bien public-là, il peut être défendu, même si c'est compliqué, il y a beaucoup de discussions juridiques sur qui a le droit de le défendre, qui, dans ce groupe de participants, notamment, a le droit d'interjeter, enfin, faire appel à la loi pour défendre ce bien public-là, ce stock qui existe. Mais finalement, s'il n'y a que le stock, il n'y a plus de commun. Le commun, c'est le système de production. J'espère que je vous ai convaincu. Et donc, ce système-là aussi, il doit être défendu pour que le commun fonctionne. Et ça, c'est plus compliqué parce que c'est une défense sur bien une organisation collective, donc des actions individuelles sur cette organisation collective. Et ça, c'est toujours fragile. Alors, il y a des questions des forks, c'est-à-dire que si l'organisation se retrouve inefficace, eh bien, on peut avoir des contributeurs qui partent avec le stock, et puisque c'est eux qui ont la valeur, c'est-à-dire la contribution, qui peuvent essayer de reconstituer un nouveau commun, hein, ça sera un nouveau commun, c'est-à-dire une nouvelle organisation de production d'actions sur ce stock. Et donc ça, c'est évidemment contestable, hein, au sens, hein, ce qu'on appelle un monopole contestable, c'est-à-dire que si on fait trop de bêtises en termes de régulation, d'organisation collective, peut-être que des gens vont partir, mais il y a quand même ce syndrome-là, ce qu'on bah, de rendement croissant d'adoption. Essayer de quitter Wikipédia pour proposer un nouveau Wikipédia, même en partant avec la base de connaissances, ça risque d'être compliqué quand même. Ça risque d'être compliqué. Alors, une fois de plus, les utilisateurs, c'est pas tellement le problème, mais pour attirer les contributeurs, pour convaincre les contributeurs que, eh bien, il vaut mieux qu'ils contribuent à ce nouveau Wikipédia, alors qu'ils vont perdre de l'audience, parce qu'ils seront mieux écoutés, mieux acceptés, etc. Donc, il y a ce syndrome-là du trop, un peu too big to fail. Et ça pose la question du rôle de ce genre de projet, en fait, et surtout des projets qui ont réussi. C'est-à-dire que si vous faites un commun dans votre coin, pour vous, hein, je vais aller jusqu'au bout de ma logique, et vous êtes content, vous produisez des choses et tout, voilà, bah finalement, tant que ça n'intéresse pas grand monde, peut-être dans votre, vous avez quelques utilisateurs qui sont contents, donc voilà, vous avez produit un petit bien public qui à votre niveau vous satisfait en tant que porteur du commun, mais quand ce commun s'institutionnalise, quand ça devient quelque chose qui produit une connaissance ou finalement un bien collectif, différent d'un bien commun, un bien collectif, et voire un bien public. Voilà, un bien collectif. Voilà, cette base de connaissances de Wikipédia, aujourd'hui, c'est un bien collectif qui est utile, voire nécessaire. Vous voyez bien qu'il y a des enjeux, que des gens veulent se positionner là-dessus. Est-ce que cette organisation-là a une responsabilité vis-à-vis de ses utilisateurs, par le seul fait qu'elle a une position de monopole, ou en tout cas une position très forte dans le débat public ou dans la proposition de connaissances. Wikipédia, ça a tué toutes les enfin, tué, oui, toutes les encyclopédies privées qui proposaient une autre vision de la connaissance. Est-ce que le fait qu'il n'y ait que Wikipédia peut poser des problèmes? Et ça, c'est pas propre au fait que Wikipédia existe, hein, c'est le propre au fait à tout monopole. Et j'ai envie de dire, tout monopole qui reste un monopole d'un acteur privé. Alors d'un acteur privé, pas au sens de l'entreprise, mais d'un acteur privé au sens d'un groupe d'individus qui fixe des règles et qui organise ce qu'ils ont envie de faire par rapport aux règles qu'ils ont fixées. et ce groupe d'individus a du succès ou a pas de succès. S'il a du succès, eh bien, d'une certaine manière, et il est redevable vis-à-vis de la société de son succès, et il doit prendre en compte la société. Et je crois que c'est ça que arrive à faire Wikipédia assez bien. Alors, je vous laisse assez pas mal de références. C'est que il écoute pour l'instant cette régulation par les entrants, cette régulation par la discussion, hein, qui est beaucoup plus forte, qui permet d'exprimer des points de vue qui sont beaucoup plus variés que une plateforme privée classique. Eh bien, ça reste une force du commun, c'est cette capacité de s'adapter d'évoluer sur les besoins. Hein. Je vous ai dit qu'ils ne s'intéressaient pas aux utilisateurs, mais malgré tout, ils sont sensibles aux remarques qu'on leur fait, et ils sont sensibles aussi aux nouveaux contributeurs qui vont proposer des choses différentes, puisque le but, c'est toujours de proposer des nouvelles choses, toujours d'avoir un flux. Sinon, une fois de plus, le commun n'existe plus. Si le stock, hein, ça c'est les projets de logiciels libres, je terminerai là-dessus. Un projet de commun, ça est numérique notamment, ça débute, ça grandit et ça peut mourir. Si un projet n'évolue plus, si on n'est que sur du stock, il n'y a plus besoin de commun finalement. Hein, c'est un bien public qui peut être défendu par la licence et qui suffit aux utilisateurs. Voilà, donc il y a toujours cette question qui est importante à mon avis pour la société de qu'est-ce qu'on fait d'un commun qui a réussi? Quel rôle a dans la société un commun qui a réussi? Et quel rôle il a par rapport à la société en termes de publication, d'acceptation des différences, etc. Et ça, c'est un problème qui, à mon avis, va se poser hein, dans les années à venir. Et dans le fond, sur le débat public, c'est souvent ce problème-là qu'on pose, en fait. Ok, vous existez, vous faites vos trucs, c'est bien, mais là, vous avez un rôle moral à jouer. Comment vous y répondez? Voilà, je vous remercie. Et si des questions, si vous voulez qu'on discute, j'ai quelques transparents en réserve pour montrer comment cette analyse a permis de mieux comprendre, par exemple, comment fonctionnaient les revues scientifiques. Mais je propose qu'on passe à la discussion d'abord. Alors je peux répondre à la question de Xavier jusqu'à quel point le caractère bien public du stock produit est-il essentiel à l'émergence du commun numérique? Alors j'ai envie de dire que le stock produit est un bien public, au sens où s'il est accessible par une licence ouverte, etc. Et on a besoin d'une licence ouverte pour que les gens puissent accéder à la production. Pour que le commun se mette en place, on a besoin que le bien public, enfin que la connaissance produite soit un bien public, soit protégée par une licence ouverte. Parce que sinon, vous avez. Alors Pierre Amiel, on peut toujours. Je prends les questions par mail aussi, hein, de manière asynchrone. Enfin, il y a un problème logique. Imaginez un bien, donc un projet de commun, en disant aux gens, vous avez le droit de contribuer. Mais votre contribution ne sera pas visible, puisqu'elle sera privée. Parce que c'est ça, hein, si on n'a pas un bien public. Et du coup, forcément, l'incitation, elle diminue fortement. Si vous pouvez. Ça me renvoie, par exemple, aux revues scientifiques. Revues scientifiques, pour un chercheur, on est proche de ça. C'est-à-dire que dans certaines revues, finalement, le fait que ce qui vous intéresse, ce n'est pas tellement d'être publié par la revue, d'être distribué par la revue. Ce qui vous intéresse, c'est d'être validé par la revue. Donc, vous avez le droit de contribuer. À partir du moment où vous dites que vous avez bien contribué, ben, vous allez vous débrouiller pour que cette contribution elle soit connue. Soit la revue est en accès ouvert et elle va faire ce travail-là, soit vous allez mettre en place ben, des. Sur votre site HL, sur ResearchGate, sur d'autres sites, bah, vous allez mettre à disposition vous êtes publié, ce qui a été publié pour être cité. C'est votre deuxième objectif en tant que chercheur. Donc voilà. Donc j'ai dû, autant les ce que j'ai pas dit peut-être pour conclure, c'est que autant les individus, les contributeurs ne sont pas intéressés par les utilisateurs. Ne vont pas demander, ne travaillent pas pour les utilisateurs, autant l'audience que les utilisateurs leur donnent, oui, les intéresse. Et donc, vous irez toujours vers la plateforme qui a la plus d'audience. Et ça veut dire un bien public.
Sébastien, je me permets, en fait, on t'entend vraiment très, très mal. Je ne sais pas si tu as des remarques à rajouter, tu pourrais peut-être les mettre dans le chat. Entre-temps, je vois qu'il y a des questions qui se, peut-être une question qui se prépare.
Ouais, je vois. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, un commun d'une entreprise? Ce qui distingue fondamentalement un commun d'une entreprise, c'est que, ce que je disais au début, c'est que la relation hiérarchique, elle n'existe pas a priori. C'est-à-dire que il n'y a pas dans une entreprise, vous avez une relation hiérarchique et vous avez, on vous demande aussi, enfin, je ne vais pas vous faire du marxisme, mais vous alignez votre force de travail. Donc, on vous dit de faire ça, vous pouvez négocier, mais vous pouvez le faire plus ou moins bien, mais vous allez avoir cette chose-là à faire. Par contre, dans un commun, il peut y avoir une entreprise qui vous dit allez participer à ce commun, ça se passe beaucoup dans les logiciels libres, mais dans le commun, il n'y a pas de hiérarchie, de relation hiérarchique au sens où on l'entend dans le droit du travail. Donc ça fait une grosse différence, puisque finalement, c'est toujours une négociation entre les utilisateurs, alors certains avec des pouvoirs, d'autres non, mais sur le fonctionnement de la chose. Mais ceci étant, tous deux sont des organisations. Voilà, ce caractère volontaire, une motivation intrinsèque qui fait que vous allez participer parce que vous avez envie de participer. Et donc, paradoxalement, ça veut dire que vous serez aussi prêt à accepter plus les règles que des règles qui sont dans l'entreprise, que vous voulez participer. Et en gros, ce qu'on va vous dire, c'est bah, si vous voulez participer à Wikipédia, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Si vous voulez pas faire comme ça, eh ben vous participez pas, c'est tout. Donc voilà, mais il n'y a pas de. On peut imaginer des espaces de commun dans des. C'est d'ailleurs ce qu'essayent de faire de plus en plus les entreprises, notamment sur l'innovation, cette idée de développer des espaces où des équipes ou des gens pourraient participer librement sur des projets. Alors ça se heurte assez vite à l'organisation, au temps de travail, ou est-ce que ça fait partie de mes missions, est-ce que mon chef me laisse le faire, etc. Mais bien sûr, il y a cette idée-là de volontaire, de volontariat et de règles qui sont aussi co-construites.
Merci beaucoup. Donc, je pense que ce qui reste, je ne sais pas si y a des commentaires sur le comment concilier donc le maintien de la gestion collective avec la reconnaissance des commandes numériques par la société. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter à ce sujet. Reconnaissance au sens moral, mais aussi en termes d'accès de droit. Et je vois que peut-être la question continue.
Oui, c'est plus une remarque.
J'ai l'impression que les questions qui avaient été posées avant, enfin, ils ont été toutes. Il y a eu des éléments de réponse.
Ouais, enfin,
Déjà,
j'espère que j'ai essayé
ouais,
de
j'ai l'impression
donner.
que c'était un peu tout. Couvert hein, au fur et à mesure. Et déjà, un grand merci pour ça, parce que enfin, il faut de l'agilité quand même.
Alors, Francesca, je pense que tu poses la question. Bah, c'est
Francesca,
une
c'était la
question. Ouais. C'est vraiment compliqué en fait de réfléchir. Est-ce que l'État doit avoir une politique publique de soutien des communs? C'est compliqué parce que ça veut dire finalement que l'État, comme l'État a une politique publique de soutien des associations, c'est-à-dire que l'État finalement dit. Bah, certaines actions qui sont une fois de plus réalisées par ces groupes privés, qui décident de leurs orientations, sont des actions de bien public ou des actions qui sont importantes pour le collectif, la société, la nation. Donc, est-ce que l'État doit décider de ça, oui ou non? Et quels sont les critères de ces choses-là? Alors On peut avoir des critères évidemment légaux, hein, dire bah voilà, faut pas que ça contrevienne à la loi, par exemple, on peut pas avoir un commun qui serait sur, je sais pas moi, parce qu'on a certains politiques, partis politiques qui se présentent et qui ne respectent pas la loi. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un commun qui dont le but serait de développer des théories racistes ou des choses comme ça? En tout cas, je pense pas que ça pourrait être soutenu par l'État. Donc il y a forcément une analyse externe de la production de ce commun et de ses objectifs. Ensuite, le soutien au commun, et moi je le trouve toujours assez difficile parce que si c'est des actions d'individus, des actions volontaires, il faut finalement favoriser la capacité des individus à pouvoir faire des choses par eux-mêmes, des choses dont ils ont envie. Donc, que ce soit la participation à des associations, la participation à des partis politiques ou à des syndicats, enfin voilà, toutes les formes d'action collective qui participent à la société. Donc ça, c'est la manière indirecte de l'État à soutenir les communs. Peut-être que l'État peut aussi faciliter la partie bien public. J'ai dit que c'était pas vraiment un problème, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que quand vous avez de la production numérique, il faut bien l'héberger quelque part. Et donc, le mettre à disposition une plateforme ou des infrastructures permettant au moins la partie, aux utilisateurs d'accéder de manière libre à la production du collectif, ça peut être aussi des choses qui sont importantes. C'est un petit peu ce qui se fait avec les plateformes en accès ouvert, qui sont financées par l'État, sachant que la partie commun de la plateforme, c'est la contribution des articles, l'édition des articles par le comité scientifique, leur évaluation par des pairs, etc. Et ça reste aux mains d'un groupe privé qui sont les porteurs du journal. Voilà. Alors je sais que c'est des réponses assez floues et assez générales, mais on va retomber. Et bon, je vous renvoie des très bons articles qui ont été écrits. Sur le lien entre l'État et les communs, on va retomber sur les rôles de l'État en tant que régulateur, la loi, en tant que fournisseur de ressources, les plateformes, et en tant qu'acteur, est-ce que l'État doit financer les communs? C'est la question. Moi, je trouve que c'est toujours dangereux de substituer des incitations intrinsèques, les individus participent parce qu'ils ont envie, à des incitations extrinsèques. On participe parce que c'est quelque chose qui est financé ou qui est mis en avant, etc. Donc voilà, donc je pense que l'aide de l'État doit être sur ces actions privées, plus en régulateur et en des choses comme ça. Alors sur les marchés publics, là on est sur l'État utilisateur. Là tu penses peut-être plus à des communs du type logiciel libre, par exemple. C'est aussi, il faut faire attention, c'est donc ce que j'ai dit, c'est pas parce qu'un logiciel est sous licence libre que c'est vraiment un commun. Si l'État est utilisateur, ça veut dire que la participation au logiciel libre, ça doit être aussi une participation active, au sens de, soit on finance des entreprises qui vont installer le logiciel, le maintenir, mais là finalement on finance un acteur privé, soit on finance des fonctionnaires ou Mackenzie, je ne sais pas. Pour participer à l'évolution du commun et pour faire en sorte que le commun, donc le logiciel dont on parle, là, le projet, aille dans la direction des besoins de l'État. C'est ça, soutenir un commun, et donc c'est soutenir un commun, c'est participer. Donc il faut que l'État participe, mais pas trop non plus, parce que sinon ça devient son objet s'il investit trop. Il faut que l'État soit capable de négocier avec d'autres acteurs, différents niveaux. L'évolution du projet, etc. Donc, alors oui, bah, revenu de base, ça c'est une idée qui est défendue depuis très longtemps par un certain nombre de syndicats. Sans doute que s'il y avait un revenu de base, il y aurait très probablement plus d'actions associatives, mais ça ne serait pas juste les communs, plus d'actions dans les communs numériques, plus d'actions de politique, etc. C'est, enfin, en tout cas, c'est évidemment ce que défendent les acteurs des revenus de base. Mais vous voyez bien que là, c'est pas une question de soutenir les communs. C'est pas une action qui soutiendrait les communs. C'est une action qui soutiendrait l'émancipation des individus Et à partir du moment où on soutient les émancipations des individus, eh bien, naturellement, argument, ces individus vont faire des choses qui les intéressent, notamment produire de la connaissance, comme le faisaient les amateurs, les nobles qui n'avaient pas besoin de se préoccuper de travailler il y a quelques années ou quelques siècles. Mais ça ne sera pas tout le monde. Voilà, oui, bien sûr. Enfin, après, on peut aussi imposer des connaissances publiques, mais ça, là, on rentre dans les questions d'évaluation des chercheurs. C'est-à-dire que je préfère avoir un article qui est publié par une revue de rang A que par une revue de rang B ou C. Et après, je le mettrai à disposition sur HAL. Donc, mais la revue, elle, n'est pas sur HAL. Donc, tu vois, c'est des questions qui sont compliquées. Et tu vois, c'est pareil, dire on va favoriser l'achat de logiciels libres, c'est aussi dangereux parce que c'est pas parce qu'un logiciel est sous licence libre que c'est un commun et que c'est un logiciel qui est mieux fait ou que c'est. Mais en tout cas, voilà, il y a cette question de soutien à la mise à disposition du bien public, ça c'est un vrai problème. Et là, quand on parle de publier la recherche, etc., c'est une chose. Et après, il y a le soutien au commun, c'est-à-dire les revues scientifiques qui sont gérées par des chercheurs, comment on fait pour gérer aussi cet accès aux revues et à la régulation de l'accès. Tout ça, c'est des voilà les plus la revue, enfin l'American Economic Review, c'est un commun, hein, géré par un petit groupe de personnes qui c'est même pas du double aveugle, c'est-à-dire que qui regardent, qui participent et qui disent, toi, tu as le droit de publier chez nous, toi, tu n'as pas le droit. Pas forcément la revue qui est la plus innovante ou la plus utile à la recherche, mais c'est aussi une revue qui est extrêmement cotée, donc c'est un commun qui a beaucoup de valeur. Donc voilà, donc là, bon, c'est pareil, là, on parle du bien public, du fait que, effectivement, le stock de logiciels est accessible. Mais si vous avez un stock de logiciels qui fait 1 million de lignes, eh bien, vous ne pourrez pas le revoir. C'est pas, il faut que le logiciel soit bien architecturé, et s'il n'est pas maintenu et s'il n'évolue pas, eh bien, vous avez un logiciel stock, et donc vous ne pouvez pas répondre aux besoins des utilisateurs. Parce que les besoins des utilisateurs, derrière, c'est cette évolution, etc. On a fait aussi un article là-dessus avec, on renvoie avec un collègue, Robert Visser, en système d'information et management, sur justement les modèles du logiciel et comment ça fonctionne.
Il y a une autre question qui se prépare ou c'est juste un retour à Mathieu O'Neill qui a posé la question sur l'information mise à disposition par Sébastien alias Francesca qui signale un livret écrit avec un collectif pour une société de commun. Et voilà. Il y a d'autres questions éventuellement sur cette présentation. Un grand merci à Nicolas. Moi, j'arrive pas à activer ma caméra. Donc, aujourd'hui, il n'y a que des soucis techniques. Un grand merci pour cette présentation. C'est très clair, très complète. Et encore un grand merci pour avoir su jongler entre les différentes questions.
Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des réactions à m'envoyer un mail. Si besoin de partager la présentation, Sébastien ou Christina, vous me direz comment il faut faire où on la met.
Bien.
J'imagine que comme c'est enregistré, il y aura la suite des transparents, mais ça peut, enfin éventuellement, on peut la mettre en ligne aussi. Voilà, ou sur un espace partagé.
On va essayer de revenir.
Enfin voilà, on se débrouille pour que ça soit un bien public.
Allez, un grand merci.